point de mire.
Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour, madame, mademoiselle, monsieur, vous écrivez, vous voulez protéger un texte, vous allez signer un contrat d'édition, vous avez besoin d'un conseil juridique, vous vous interrogez sur votre statut d'écrivain ou sur l'avenir de vos droits. Pas de panique, il existe pour vous répondre une société qui met à votre disposition bien des services. J'ai nommé la Société des gens de lettres. Et c'est elle qui va vous être présentée maintenant par mon invité, le président de la Société des gens de lettres, Alain Apsir, par ailleurs, lui-même écrivain, auteur de nombreux ouvrages. Alain Apsir, bonjour.
Bonjour.
Vous avez, en tant que président de cette société, des prédécesseurs très illustres. Balzac, Hugo, Dumas, Georges Sand. Vous vous sentez pas un peu petit ou vous vous sentez en bonne compagnie?
Je me sens en devenir, si vous voulez, par rapport à ces grands noms. Non, c'est Émile Zola aussi, plus proche de nous. Non, au contraire, je dirais que c'est une filiation, une lignée qui oblige à aller encore plus au-delà de ses propres possibilités. Et j'en suis très heureux.
Alors, la Société des gens de lettres, qui n'est pas une société secrète, elle a été fondée officiellement donc en 1838. On
exact.
Était donc début du 19e siècle.
Exact.
Et depuis, elle a toujours fonctionné, toujours existé, sans interruption.
Sans interruption. Alors, elle a été fondée. En réalité, c'était donc, comme vous le dites, le début du 19e siècle. C'était l'époque où les romanciers étaient des feuilletonistes, c'est-à-dire que leurs romans étaient publiés par les journaux sous forme de feuilleton. Et il n'existait aucune espèce de protection des droits des auteurs à l'époque, à savoir que les propriétaires de journaux achetaient, bien souvent pour une somme assez dérisoire, les œuvres des uns et des autres, y compris des plus grands.
Balzac s'en plaignait beaucoup,
voilà,
déjà.
Voilà, oui. Balzac s'en plaignait, il n'était pas le sol, et les saucissonnaient, les tronçonnaient, en rajoutaient des bouts, en enlevaient, les revendaient à d'autres propriétaires de journaux, sans que l'auteur touche un centime supplémentaire, ni qu'il puisse avoir la quelconque remarque. Donc, des auteurs et des propriétaires de presse, hein, des directeurs de journaux, se sont réunis, à l'image un peu de ce qu'avait fait Beaumarchais pour le théâtre quelques années auparavant avec la SACD, se sont réunis pour fonder une société d'auteurs en vue de protéger à la fois le contenu et l'intégrité des œuvres et à la fois les droits de tous ces grands écrivains et des moins grands aussi. Et donc la Société des gens de lettres au départ était ce qu'on appelle une société de perception et de redistribution de droits, c'est-à-dire qu'elle signait des accords avec un certain nombre de journaux, lesquels étaient les seuls habilités à publier en feuilleton les romans des uns et des autres. Des droits étaient perçus par la Société des gens de lettres et la moitié de ces droits étaient redistribués aux auteurs en question. Alors aujourd'hui, quand on se dit une société de perception qui garde la moitié des droits pour elle et qui n'en reverse que la moitié, ce serait un grand scandale. Mais à l'époque, c'était une première.
C'était déjà
on n'avait jamais vu ça. Voilà.
Alors aujourd'hui, justement, est-ce que la Société des gens de lettres a effectivement pour objectif de protéger les auteurs? Et qu'est-ce que cela veut dire?
Oui, alors en réalité, la Société des gens de lettres, presque deux siècles plus tard, elle a, je dirais, trois fonctions. Elle a une fonction, d'abord une fonction culturelle, de défense de l'écrit, de protection des œuvres, de mise en avant des écrivains, surtout des jeunes talents. Hein, puis pour nous, c'est très important. Donc les nouveaux auteurs. Donc rencontres littéraires, présence au Salon du Livre, des prix, des grands prix que nous distribuons, etc. Et défense de la langue française. Nous avons été partenaires, bien sûr, l'année dernière, de toute l'année de la francophonie. La deuxième fonction, elle est d'ordre social, c'est-à-dire que nous sommes là pour défendre le statut social des écrivains. C'est nous qui avons créé, je dirais, la sécurité sociale des auteurs, puisqu'avant, il n'y avait rien du tout. Et encore très récemment, il y a deux ans, nous sommes à l'origine de la première caisse de retraite complémentaire pour les écrivains. Nous étions les derniers créateurs artistiques en France à ne pas avoir de caisse de retraite complémentaire. Et nous avons à domicile la seule assistante sociale en France qui s'occupe uniquement du problème des écrivains, des auteurs de livres, des scénaristes, des traducteurs et des auteurs de radio. Et puis, troisième fonction à laquelle vous avez fait allusion, c'est le droit d'auteur. C'est-à-dire que nous sommes sans cesse à défendre ce droit d'auteur, droit patrimonial, c'est-à-dire l'argent issu de l'exploitation des œuvres, et droit moral, protection des œuvres, puisque le droit d'auteur en France, c'est ces deux choses-là. Et nous sommes aussi à l'origine de beaucoup de droits et de droits nouveaux, tels que le droit de prêt en bibliothèque, qui est entré en vigueur il y a maintenant un petit peu plus de 3 ans, et d'où nous sommes très fiers de dire qu'aujourd'hui, il va permettre aux éditeurs, aux auteurs, aux libraires d'être préservés par rapport à cet extraordinaire, et Dieu sait si nous sommes pour, bien sûr, réseau d'achat, de vente, de diffusion des livres, tout en ne coûtant pas un centime au lecteur. Il a juste fallu à peu près 15 ans pour arriver à une bonne loi, mais nous y sommes arrivés, et c'est une grande, grande satisfaction pour nous, et actuellement d'énormes chantiers sur l'Internet, et sur la création, la diffusion des écrits sur Internet, bien sûr.
Alors, Alain Absir, un tout petit mot sur l'endroit où se situe la Société des gens de lettres, parce que c'est un très bel endroit où vous avez eu la bonté de m'inviter. Alors, je peux dire que c'est un endroit privilégié au cœur de Paris, l'hôtel de Massa. Un petit mot sur cet hôtel?
Alors, c'est vrai que c'est un endroit absolument magique, que chacun peut aller voir, d'ailleurs, parce que les jardins sont ouverts dans la journée. Ça se trouve auprès de Port-Royal, rue du Faubourg Saint-Jacques, au 38. Alors, c'est un hôtel particulier qui a été construit en 1784. C'était ce qu'on appelait à l'époque une folie. Et en particulier, il a été utilisé par le ou les frères du roi Louis XVI, qui sont de même venus roi de France après. Il a été aussi, pendant un an et demi, la propriété de Bonaparte, qui était à l'époque premier consul. Il était sur les Champs-Élysées, figurez-vous. Il n'appartenait pas du tout à la Société des gens de lettres à l'époque. Il était sur les Champs-Élysées, à l'endroit où se trouve aujourd'hui le Vigier de Mégastore. Et en 1927, il a été acheté par le propriétaire des Galeries Lafayette, qui s'appelait Monsieur Bader, et son associé, qui s'appelait Monsieur Lévy. Et que cherchait-il à faire? Eh bien, il cherchait surtout à commercialiser le terrain. Vous imaginez la valeur que ça avait à cette époque-là, un grand terrain comme ça sur les Champs-Élysées. L'hôtel était classé monument historique, c'est un endroit de toute beauté. Et donc, comme ce n'était pas l'hôtel qui intéressait Monsieur Bader, il a fort généreusement décidé d'en faire don à la Société des gens de lettres, qui œuvrait, bien sûr, à l'époque pour les droits des auteurs, comme je l'ai dit. Donc c'est un don qu'on nous a fait. L'hôtel a été déménagé pierre par pierre aux frais de Monsieur Bader et reconstruit presque à l'identique dans un autre quartier de Paris où nous sommes aujourd'hui, sur un petit bout des jardins de l'Observatoire. Alors l'hôtel malheureusement ne nous appartient plus parce que nous en avons échangé la propriété contre la jouissance, l'hôtel appartient à l'État, contre la jouissance d'une partie de ces jardins de l'Observatoire. Voilà, nous y sommes pour 99 ans, donc maintenant encore pour 25 ans à peu près, une vingtaine d'années, et nous y sommes merveilleusement heureux, mais que chacun vienne, les portes sont ouvertes, il y a beaucoup de manifestations culturelles, il faut venir voir.
Alors déjà, on a pu goûter le talent d'Alain Absir, qui non seulement comme historien, puisqu'il écrit de nombreux ouvrages à tendance historique, à toutes les dates en tête, comme vous l'avez entendu, mais aussi conte merveilleusement les histoires dont nous étions sous le charme. Alors Alain Absir, pour appartenir à ce qu'il faut appeler la SGDL, quand on est branché un peu, comment devient-on adhérent à la Société des gens de lettres?
Eh bien, il suffit. Il faut avoir publié au moins un livre à compte d'éditeur. C'est-à-dire, vous savez la différence entre le compte d'auteur et le compte d'éditeur. Le compte d'auteur, ce sont les auteurs qui sont obligés de payer parce qu'ils n'ont pas forcément d'éditeur reconnu pour publier leurs textes. Nous sommes un organisme professionnel, donc nous accueillons chez nous que les auteurs qui ont des contrats d'édition avec des éditeurs en place, Gallimard, Le Seuil, Grasset, Fayard et tous les plus grands et les moins grands. Donc il faut avoir publié au moins un livre ou bien avoir au moins un contrat d'exploitation commerciale lorsqu'on est en particulier scénariste de télévision ou de cinéma. La même chose en ce qui concerne des œuvres audiovisuelles d'une manière générale et des œuvres radio. Au bout de 3, on monte de grade. Là, on était stagiaire. Au bout de 3, on devient adhérent. Et au bout de 6, on devient sociétaire.
Sociétaire.
Et
oh,
une fois
rêve.
Sociétaire, on a la possibilité d'entrer dans le conseil d'administration. Juste pour dire tout de même que l'air de rien, nous sommes 6 000.
6 000 actuellement. Ouais, 6 000 membres. Ouais, ben voilà, ouais. J'allais vous poser la question. Vous êtes la plus importante association d'auteurs en France et gérée par des auteurs, c'est-à-dire gérée par des gens en majorité bénévoles, sauf les gens qui fonctionnent de manière fixe à la société.
Alors, il y a effectivement une équipe de salariés qui se regroupent en fonction des trois grandes
directions,
trois grands domaines,
oui,
hein, qu'on a vu
vous
tout
avez
à l'heure.
Dit, le juridique,
le culturel et
oui.
La communication, le juridique, le social. 9 salariés qui ne sont pas auteurs, hein, qui eux sont des spécialistes. Mmh. Des juristes ou bien des gens spécialisés de la communication, un directeur financier, etc. Et puis à côté de ça, des élus, donc 24 administrateurs qui sont tous sociétaires, donc tous auteurs de livres ou auteurs de scénarios ou auteurs d'émissions de radio. qui sont élus pour 4 ans. Sur candidature, on n'oblige personne à être élu pour répondre à une question que vous m'avez posée
voilà,
avant que les micros soient ouverts.
Voilà, c'est comme ça que vous avez été élu président.
Voilà. Et nous sommes élus pour 4 ans. Et tous les ans, ce conseil d'administration se renouvelle par quart. Hein. Mmh. Donc, au bout de 4 ans, il peut être entièrement renouvelé. Et en son sein, il élit un bureau. Donc un bureau, c'est un président, un premier vice-président. Alors le président actuellement, c'est moi, mon premier vice-président. J'ai la chance d'avoir une prestigieuse première vice-présidente qui est l'écrivain Noël Châtelet, que tant de gens connaissent, et qui est la sœur de Lionel Jospin d'ailleurs.
Bien sûr.
Nous avons à côté de ça trois présidents, vice-présidents qui concernent toutes les œuvres, les uns auteurs de livres, les autres auteurs du multimédia de l'audiovisuel, les autres auteurs d'émissions de radio. Et puis un trésorier adjoint, un secrétaire général qui est l'écrivain historien d'origine belge mais naturalisé français qui est Jean-Claude Bologne, que beaucoup de gens connaissent, auteur en particulier d'une passionnante histoire de la pudeur, l'histoire du célibat plus récemment de nous qui a fait grand bruit l'année dernière. Et puis voilà, puis autour de nous un conseil d'administration avec quelques noms très connus, je pense comme ça en vrac, Paul Constant, prix Goncourt, Georges-Olivier Château-Renaud, prix Renaudot et membre du jury Renaudot. Et puis voilà, beaucoup d'autres.
Tous les auteurs que nous
des
aimons.
Des traducteurs, bien sûr, traducteurs prestigieux, des poètes. Et voilà, et puis nous arrivons à travailler tous ensemble. Ça paraît étonnant parce qu'on se dit, mais mettez 24 écrivains tous enfermés dans la même pièce en conseil d'administration pendant 4 heures, qu'est-ce qui se passe? Eh bien écoutez, je suis encore vivant.
Bon, voilà une bonne nouvelle. Cette société des gens de lettres, elle décerne de nombreux prix, vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, est-ce que ce sont des prix par genre ou par comment s'organisent ces prix?
Alors, il y a deux grandes sessions de prix. Il y en a une à la fin de l'année et une au printemps. Celle de la fin d'année, c'est des prix qui sont décernés exactement essentiellement sous forme de bourse et plutôt réservés à des nouveaux talents, c'est-à-dire à des jeunes auteurs. Pour nous, c'est une chose très importante. Nous voulons être une maison d'accueil pour les nouveaux venus. Moi, je me souviens quand j'ai publié mon premier roman, j'avais 28 ans à l'époque, et c'est vrai que j'étais complètement perdu. Ça s'appelait L'homme disparu, et d'ailleurs, ça ressort au mois d'avril chez un éditeur belge, mais ce sera distribué en France. Voilà.
Donc
L'homme disparu, c'était chez Albin Michel.
Étiez perdu, et vous avez trouvé un soutien dans la Société
perdu.
Des gens de lettres.
Non, j'ai pas trouvé de soutien dans la Société des gens de lettres, parce qu'à l'époque, je connaissais pas la Société des gens de lettres, mais ça m'a manqué pendant des années. Et nous nous rendons compte, la semaine dernière, nous avons fait d'ailleurs réceptionnés, nous avions à peu près de 200 à 250 nouveaux adhérents dans l'année, et nous en avons réceptionné à peu près la moitié qui sont venus volontiers nous voir, auxquels nous avons présenté toutes nos activités, et c'était un moment assez formidable, parce qu'il y avait à la fois de tout jeunes gens, et à la fois des gens beaucoup plus âgés, ou bien qui rentraient dans la carrière, ou qui adhéraient, je dirais, sur le tard, mais en tout cas, c'est un grand lieu de rencontre, et un grand lieu d'aide pour ces nouveaux talents. Donc, prix d'automne qui sont essentiellement pour ces jeunes talents, et prix de printemps, c'est autre chose. Les prix de printemps sont beaucoup plus des prix de consécration.
On aurait pu croire l'inverse, au fond, le printemps évoquant la jeunesse, la nouveauté, etc. Mais vous avez fait l'inverse.
Pourquoi pas, on a fait l'inverse, mais je pense, alors là, ça date bien avant que j'ai pris la présidence, il y a maintenant 5 ans, bien avant ça, les prix de printemps nous offrent l'occasion de faire une grande rencontre, un grand rendez-vous pour plus de 200-250 personnes dans les jardins d'hôtels de Massa. Ça, c'est le printemps, il fait beau, on dresse une grande tente. C'est un moment assez magique pour n'en rien vous cacher. Et là, c'est par genre, en effet. Il y a une 10-12 de prix. Tous sont assez largement dotés, d'ailleurs. Ainsi que les bourses d'automne. Et qui, là, sont plutôt pour consacrer, je dirais, des écrivains,
des œuvres,
des écrivains reconnus. Oui. Des prix pour des ensembles de l'œuvre, aussi bien en poésie qu'en roman. Grand prix du roman, grand prix de l'essai, grand prix de la nouvelle, des grands prix de poésie, grand prix jeunesse. Je pense cette année que nous allons pour la première fois décerner un grand prix de la bande dessinée. Enfin, on est en train de mettre ça sur pied, mais je pense qu'il est temps que
c'est tout de même un secteur des livres qui est très important.
Il y a des choses absolument remarquables, tant au niveau texte qu'au niveau image, même nous si on n'est pas une maison de l'image, à proprement parler. Je pense qu'il faut
ce sont tout de même des livres,
donc, voilà.
En effet.
Alors, juste ce qu'il faut savoir, c'est que ces prix, ils sont, je vous ai dit qu'ils étaient richement dotés. Cela vient des legs et des donations qui nous ont été faites depuis 1838. Et donc, c'est la volonté de certains donataires ou légataires de nous donner, de nous laisser des sommes parfois assez importantes, justement pour pouvoir décerner ces prix. Je signale au passage que nous venons d'en décerner un prestigieux qui est le prix Louis Powels, qui était une nouveauté pour la Société des gens de lettres grâce à Madame Hélène Powels.
Voilà, et qui a été attribué, je crois, au livre Dernier ouvrage de Monsieur Juppé, voilà. Alain Juppé. Alors, la Société des gens de lettres, Alain Absyre, elle se fait aussi de temps en temps éditeur elle-même, puisqu'elle publie des petits dossiers qui sont presque des petits livres, en fait, qui sont très utiles sur le droit moral, sur le statut social des auteurs de l'écrit, sur justement l'écrivain dans l'espace francophone. Ce sont des résultats de forums que vous organisez ?
Voilà. Ce sont des forums, des colloques sur une ou deux journées que nous organisons donc avec des spécialistes de toutes ces questions. Ce sont souvent des forums d'information, parce que vous savez, le problème aujourd'hui des écrivains, des auteurs de livres, c'est d'être très isolés. Et nous sommes confrontés, puisque je vous ai dit que nous avions un rôle social, je crois, important, et nous sommes les seuls à le jouer en France, à tenir ce rôle, nous sommes confrontés à de véritables problèmes sociaux. Des écrivains, parfois même de gens qui ont été connus et qui ont eu leur heure de gloire, même on peut dire, et qui sont parfois auteurs d'œuvres très remarquables et qui souvent, arrivés à un certain âge, s'aperçoivent brusquement qu'ils n'ont plus rien. Qu'ils n'ont plus rien parce qu'ils ont manqué d'informations, parce qu'ils n'ont pas su qu'il existe des systèmes de protection sociale pour les auteurs, mais encore faut-il pour en bénéficier, comme tous les systèmes sociaux, remplir un certain nombre de conditions, c'est-à-dire ne serait-ce que cotiser à ces systèmes-là.
Bien sûr.
Donc nous sommes là et nous nous efforçons justement d'informer sur tout ce qu'il est nécessaire de faire pour faire respecter, profiter de ses droits et ne pas se retrouver dans des situations dramatiques comme malheureusement nous en voyons de plus en plus fréquemment. Et je signale d'ailleurs qu'à ce sujet, fonctionne chez nous une commission qui s'appelle une commission des aides d'urgence, qui est maintenant co-gérée depuis tout à fait récemment, depuis un an et demi, avec le Centre National du Livre, donc qui est un opérateur, je dirais, du ministère de la Culture, et qui nous permet d'aider de toute urgence des écrivains qui soit ne peuvent plus payer leur cotisation sociale, soit ne peuvent plus payer leur loyer, soit même parfois sont mis dehors. Donc on est là pour les aider. La commission se réunit tous les mois et elle décerne cette aide financière absolument en permanence toute l'année.
Alain Absyre, avant de nous quitter, deux mots quand même sur vos propres livres, puisque vous êtes un écrivain. On dit que vous avez commencé à écrire à 15 ans, mais vous écriviez, semble-t-il, plutôt du théâtre que du roman. Maintenant, vous écrivez beaucoup de romans. Les derniers ont fait du bruit tout de même. Déjà, le titre, « Deux personnages sur un lit avec témoins ». Alors, on s'interroge. C'est paru chez Fayard en 2006.
Oui, c'était pour la rentrée littéraire. C'est un roman inspiré d'un épisode de la vie du peintre Francis Bacon, dont l'œuvre me fascine totalement depuis de très longues années, et donc qui raconte l'époque de sa liaison avec son modèle et amant, Georges Dyer. C'est une histoire assez terrifiante, assez incroyable. Et voilà, j'ai fait un roman à partir de ça. Je signale d'ailleurs que, alors c'est pas moi qui le fais, mais il y a une adaptation théâtrale qui est en cours. Donc on va peut-être voir l'adaptation théâtrale. Il y a de grandes chances dans les mois à venir.
C'est gratifiant pour un auteur de voir l'un de ses livres porté au théâtre.
J'en suis tout à fait ravi. Voilà, ça c'était le tout dernier. Oui.
Alors, je rappellerai tout de même que vous avez eu aussi le prix Femina pour un livre qui s'appelle L'égal de Dieu. C'était en 1987 et que vous vous êtes penché aussi un peu sur saint François d'Assise.
Oui, Le pauvre d'Orient, c'est le titre du roman Presse de la Renaissance. Enfin, c'est pas un roman, c'est un récit, c'est une histoire vraie,
une histoire
authentique,
vraie
absolument. C'est l'histoire de la croisade de François d'Assise. À la fin de sa vie, François d'Assise est parti en croisade, ce qu'on sait rarement. Il est parti comme beaucoup de gens partaient là-bas, c'est-à-dire avec l'idée d'y mourir, de s'y sacrifier en quelque sorte. Et puis, en réalité, il a été assez effrayé par ce qu'il a découvert et, en somme, il a déserté. Il a déserté le camp des croisés. Il faut dire que ce n'est pas l'époque la plus reluisante des croisades.
C'était quelle croisade, hein? La 1 ou la 9 ou
non,
la 8
c'était
vers la fin.
C'est la 7e croisade. Oui,
vers la fin. Oui.
Et c'était en Égypte, hein, c'était du côté de Damiette. Il a été fait prisonnier et là, il a rencontré le sultan Malek Al-Kamel, qui était le neveu du grand Saladin. Et il s'est passé quelque chose entre eux. Tous les biographes de l'époque en attestent, tous les auteurs arabes qui ont été confrontés à cette histoire aussi. C'est une histoire incroyable de rapprochement, d'entente entre chrétienté et islam à une époque où les esprits étaient un petit peu moins échauffés qu'aujourd'hui, je pense. Et c'est une histoire, moi, qui m'a tout à fait bouleversé, que je trouve totalement universelle. Alors, ceux qui connaissent Assise ont pu voir, d'ailleurs, dans la basilique Saint-François que Giotto a consacré dans ses une peinture de ses fresques à cet épisode. Et puis dans la crypte, il y a des objets tout à fait étonnants et bouleversants que François d'Assise a rapporté de cette croisade. Donc voilà, c'était un livre sur ce dialogue. Ce sont des questions, moi, qui me préoccupent énormément. Je suis très très préoccupé des questions religieuses déjà et
qui sont moments... aussi politiques d'une certaine manière, d'une manière de considérer l'autre.
Voilà. Il y a quelques années, bon, j'ai publié un livre qui, enfin, moi, je pense que c'est celui qui compte plus que les autres peut-être dans mon œil, qui s'appelait Lazare ou le Grand Sommeil, dont on a beaucoup parlé à l'époque, qui était aussi l'histoire du ressuscité Lazare après sa résurrection. Voilà.
Mais vous vous êtes aussi intéressé à Jean Seberg, donc là on est plutôt dans un autre domaine de fascination de personnages.
Retour vers le théâtre, vers le cinéma, puisque j'ai commencé ma vie, j'étais jeune, hein, après le bac à 18 ans, puisque je suis un peu un autodidacte, par être comédien, par être acteur. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer Jean Seberg sur un tournage, qui était le tournage de l'attentat d'Yves Boisset au tout début des années 70. Et je dirais que j'étais tout à fait ébloui par elle.
Et comme
j'étais jeune et très culotté, je me suis permis d'aller la voir et il s'est passé quelque chose qui fait qu'on s'est beaucoup revus, pratiquement jusqu'à la fin de sa vie, puisque je l'ai vue pour la dernière fois 3 semaines avant sa mort. Elle écrivait beaucoup et elle me montrait ses textes et on parlait, voilà, quand on se voyait dans un café, on parlait d'écriture comme ça. Ça et à la fin de sa vie, puisque ce qui était un moment absolument bouleversant et abominable, elle m'a demandé un jour pourquoi j'écrirais pas son histoire pour lui rendre justice, et j'ai eu l'imprudence peut-être de lui dire oui, et ça a donné ce livre qui s'appelle Jean S. qui fait 700 pages, qui est une biographie romancée et que j'ai publiée pour le 25e anniversaire de sa mort.
En 2004 chez Fayard.
Voilà.
Alain Absir, avant de nous quitter, les projets pour la rentrée, les projets pour bientôt, un livre bientôt.
Alors les projets pour bientôt, je publie un livre un petit peu différent, tout à fait là, le 1er mars, qui s'appelle « Sans pays », et qui est un livre sur les clandestins en France. Bon, parce que c'est un sujet aussi qui me
qui est un roman ou
qui est un document romancé.
Romancé quand même.
Bon, il se trouve que j'habite pas très loin de Cachan et que j'ai été assez bouleversé par ce qui s'est passé là-bas. Et voilà, j'en ai tiré un roman qui est un cri, je dirais, un appel à l'humanité. Je pense que nous n'avons pas pour vocation à recueillir toute la misère du monde et je ne défendrai surtout pas ce point de vue-là.
Mais
je pense qu'il y a de la dignité à avoir pour ceux qui sont là et qui ont besoin qu'on les aide et qu'on les aime.
Alors on lira à la Absir votre livre qui paraît chez qui ?
Qui paraît toujours chez Fayard.
Toujours chez Fayard, fidèle à son éditeur.
Voilà. Et où je suis très heureux.
Alors avec Alain Absir, nous avons évoqué la Société des gens de lettres et sur notre site internet, vous trouverez tous les renseignements pour devenir adhérent, si cela, ou sociétaire, ou même stagiaire, ça dépend du niveau que vous choisissez. En tout cas, pour vous mettre en contact avec la Société des gens de lettres sur le site internet de Canal Académie. Alain Absir, merci.
Merci à vous.
Et à bientôt.
À bientôt.